Vous écoutez, on lit pour vous.
Carnet gourmand, l'heure du thé, ramens et autres plaisirs d'automne. Un texte de Véronique Leduc, paru le 17 septembre 2025 dans Virage. Des effluves de thé, des pommes à profusion, un bol de ramens fumant. Les plaisirs de la table accompagnent en douceur l'arrivée de l'automne. Dans ce carnet gourmand, quelques idées à savourer en famille, entre amis ou en solo. L'heure du thé, my dear. Près de deux siècles après son introduction en Grande-Bretagne, l'heure du thé semble retrouver ses lettres de noblesse dans la belle province. Plusieurs établissements proposent désormais un vaste choix de thé ainsi que des plateaux étagés comprenant, à la base, des bouchées salées, des scones au centre et au sommet, des mignardises. Des noms à retenir pour vivre l'expérience entre amis ou en famille, Lady Porcelaine, Le Parloir, Rose Ellis, R-O-S-E-L-Y-S, Cardinal ou La Cour des Palmiers, à Montréal, ainsi que Place Dufresne, au côté Boutique Atelier ou Le Lièvre et la Tortue à Québec. À noter que Paparman, à Montréal, propose un plateau baptisé « Le thé des petits trésors », spécialement conçu pour les plus jeunes. Une belle expérience à partager avec ses petits-enfants. Restauration, les palmarès font jaser. Depuis le début de 2025, les palmarès consacrant les meilleurs restaurants se sont multipliés pour classer les établissements du Québec et du Canada. Au printemps seulement, Canada's 100 Best a publié sa liste, suivie du très attendu guide Michelin, qui a attribué pour la première fois des étoiles à des établissements québécois, ainsi que du gala des lauriers de la gastronomie québécoise, qui récompense depuis 7 ans les artisanes et artisans du milieu, dont le meilleur restaurant de la province. Pearl Morissette à Niagara, Mon Lapin à Montréal et Allo, Allo à Toronto se sont hissés sur le podium du premier palmarès, tandis que Tanière 3 à Québec s'est illustré avec 2 étoiles Michelin et que Le Clan, également à Québec, a remporté le prix du meilleur restaurant au Laurier. Y a-t-il trop de palmarès? Oui, disent certaines personnes qui estiment qu'il devient difficile de s'y retrouver. Et ce n'est pas fini. Chaque automne, en route, le magazine d'Air Canada dévoile sa propre sélection des meilleurs restaurants canadiens, une liste qui suscite toujours beaucoup de réactions dans le milieu. Tomber dans les pommes. Au Québec, l'automne est associé à la pomme. Mais saviez-vous que la province compte plus de 425 producteurs répartis dans différentes régions? Et que ceux-ci produisent chaque année plus de 109 000 tonnes de pommes, soit l'équivalent du poids d'environ 20 000 éléphants d'Afrique. À travers la province, ce sont plus de 3 575 000 pommiers qui nous offrent leurs fruits sur une superficie totale d'environ 4 800 hectares, soit l'équivalent de près de 6 700 terrains de football. Pour profiter de cette abondance, rendez-vous sur lapommeduquebec.ca, où il est possible de trouver un producteur selon votre code postal et vos préférences. Auto-cueillette, variétés disponibles, activités familiales et plus encore. Il y en a pour tous les goûts. Nourrir son esprit. On connaissait déjà le lien entre l'alimentation et la santé du cerveau, notamment en ce qui concerne la performance de la mémoire. Mais lors de son congrès annuel Nutrition 2025, la Société américaine de nutrition a présenté une étude confirmant les bienfaits du régime MIND, M-I-N-D, inspiré de la diète méditerranéenne et prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour l'adopter. Ce régime alimentaire réduirait significativement le risque de démence et ce, peu importe l'âge auquel on commence à le suivre. Cette recherche, menée auprès de 93 000 personnes adultes âgées de 45 à 75 ans, a démontré que celles qui adhéraient au régime MIND présentaient un risque de démence réduit de 9 % avec des diminutions pouvant atteindre 25 % chez celles ayant amélioré leur alimentation sur une période de 10 ans. Le régime inclut des aliments tels que les légumes à feuilles vertes, comme les épinards ou les brocolis, les baies, les noix, les graines entières, les poissons gras, l'huile d'olive et le vin rouge consommés avec modération, tout en limitant la consommation de viande rouge, d'aliments frits et de sucreries. Creuser l'appétit pour une saine alimentation. La Tablée des chefs a annoncé le lancement d'initiatives axées sur la promotion de la saine alimentation auprès des personnes aînées, ainsi que sur l'importance du partage intergénérationnel. Grâce à une aide financière, l'organisme à but non lucratif prévoit offrir gratuitement des ateliers culinaires aux personnes de 55 ans et plus, organiser un jumelage intergénérationnel lors de certains ateliers afin de briser l'isolement social, puis de mettre en place une trousse à outils spécialement conçue pour les personnes aînées afin de les aider à préparer des repas équilibrés. Ces initiatives s'inscrivent dans un contexte préoccupant de dénutrition chez les personnes aînées vivant seules où 25 % éprouvent des difficultés à se procurer de la nourriture, 46 % peinent à préparer leur repas et 37 % mangent seuls chaque jour. Grâce au jumelage, on souhaite également préserver les recettes de la cuisine traditionnelle québécoise, trop souvent menacée d'oubli. Site web table des chefs en un seul mot, .org. Le ramen, compagnon d'automne. Pour accueillir tout en douceur les premières soirées fraîches, le ramen vient à la rescousse. Beaucoup plus facile à trouver depuis quelques années, cette soupe japonaise a bel et bien conquis sa place au Québec. Un bouillon riche, des nouilles fondantes, une viande grillée, un œuf mollet, de l'oignon vert et parfois quelques morceaux de légumes, le tout couronné d'une tranche de narutomaki, un rouleau de pâte de poisson. Voilà tout ce qu'il faut pour se réchauffer. Sur le web, les listes d'établissements québécois où savourer un bon ramen se multiplient avec des adresses à Montréal, Québec, Sutton, Sherbrooke, Laval et Joliette, entre autres. Et ce n'est pas tout. Le plat a même son propre festival, dont la 4e édition se tient du 13 au 26 octobre à Montréal. Le Ramen Fes, F-E-S, incite plusieurs restaurants de la ville à proposer leur ramen vedette. Le vote du public déterminera le grand gagnant. À vos baguettes, site web asiasie.com. .com/ramen-ramen-fes, tout en un seul mot. C'était Carnet gourmand, l'heure du thé, ramen et autres plaisirs d'automne. Un texte de Véronique Leduc paru le 17 septembre 2025 dans Virage.
Est-ce que la punition à sa place au travail, un texte de Jean-François Berthelet, paru le 10 septembre 2025 dans la presse. Est-ce que la punition a sa place dans une approche visant à favoriser l'engagement des équipes au travail? La température sociale de notre époque commande de répondre que c'est une bien mauvaise idée. La bienveillance n'est-elle pas la valeur suprême proclamée dans de nombreuses entreprises? Mais si on voyait les choses sous un autre angle, un milieu de travail exempt de sanctions, manquerait-il de bienveillance envers ceux qui travaillent bien et respectent les règles? C'est ce qu'on appelle la punition altruiste, notion abordée autant en biologie évolutive qu'en économie, pour expliquer les comportements humains en contexte collectif. Suis-je en train de réclamer le retour des gestionnaires tyrans qui aiment abuser de leur pouvoir et montrer à tous qui est le patron? Pas du tout. De nombreuses études ont montré que ceux qui agissent de la sorte nuisent à la santé du personnel, mais aussi à la performance de leur équipe. Cependant, ceux qui sanctionnent les comportements contre-productifs ou contraires aux valeurs de l'équipe, ce qu'on appelle la punition contingente, réussissent de leur côté à augmenter la performance de leur équipe. Bref, on ne punit pas pour le plaisir de punir, mais on prend la responsabilité de préserver les intérêts du collectif. La trop méconnue économiste et prix Nobel Elinor Ostrom a étudié des centaines de communautés qui parviennent à gérer efficacement leurs ressources communes. Elle a établi 8 principes qui rendent ces systèmes durables. Parmi eux, des règles claires et connues et des sanctions graduelles et proportionnées. Ces sanctions ne visent pas à humilier, mais à préserver la cohésion sociale et ce qui fait que notre collectif reste en santé. Dans nos organisations, c'est la même chose. Sans règles ni conséquences, même les meilleures équipes sombrent avec le temps dans ce qu'on appelle la tragédie des communs. Chacun agit pour soi au détriment du groupe. Les anthropologues l'observent également depuis longtemps. La coopération humaine dépend de la possibilité de sanctionner. Dans les petits villages comme dans les grandes organisations, la survie du groupe repose sur un contrat implicite. Chacun contribue et respecte les règles, sous peine de conséquences. Une recherche publiée par des anthropologues dans Proceedings of the National Academy of Sciences montre d'ailleurs que plus la taille du groupe est grande, plus l'absence de sanctions mène rapidement à la fin de la coopération. Les émotions de colère ou d'indignation que nous éprouvons face à la tricherie sont des signaux issus de l'évolution humaine. Elles nous incitent à agir pour préserver le groupe. C'est ce qui explique pourquoi nous soutenons spontanément une sanction juste, même quand nous ne sommes pas directement concernés. Et pourquoi beaucoup de citoyens ont une aversion pour ce qu'ils jugent être des peines bonbons données à des criminels. Si vous saviez le nombre de commentaires anonymes de salariés dans les sondages organisationnels qui réclament que le gestionnaire mette ses culottes, comme on le dit en bon québécois, que penserait-on du professeur qui déciderait de ne pas sanctionner un étudiant qui se fait prendre à tricher et qui obtiendrait, par-dessus le marché, un meilleur résultat que les autres? Serais-je maintenant légitimé de tricher, moi aussi? Car nous nous battons pour les mêmes emplois, à la sortie de l'école. De la même façon, un gestionnaire qui n'appliquerait pas les règles que l'organisation s'est données est voué à voir le respect des normes s'éroder. Un cas d'actualité qu'on me raconte fréquemment est l'application laxiste et inégale de la politique des jours de présence au bureau obligatoire. Si nous devons tous être en présentiel 3 jours par semaine et que la règle est peu respectée dans la réalité, pourquoi la suivrais-je de mon côté? Même un salarié qui respecte cette attente pourrait être tenté de prendre congé le vendredi après-midi en se disant qu'il n'est pas plus fou qu'un autre. Pourquoi devrais-je me dépasser si mon collègue s'en tire à si bon compte? Le non-respect de la règle par les autres me donne un passeport moral pour tricher aussi, se dit-il. Si vous êtes gestionnaire, il est à peu près certain que vous préférez féliciter quelqu'un que de prendre des décisions plus difficiles ou impopulaires. Et que vous n'avez pas mis dans vos résolutions de la rentrée de punir davantage. Mais souvenez-vous qu'à l'instar du rôle d'un arbitre au hockey, vous avez un travail ingrat à accomplir, mais c'est bien lui qui permet au système de fonctionner et aux joueurs de s'accomplir dans un environnement prévisible et sûr. N'est-ce pas ça, la vraie bienveillance, au fond? C'était Est-ce que la punition a sa place au travail? Un texte de Jean-François Berthelet, paru le 10 septembre 2025 dans la presse.
Rajeunir la mémoire grâce à des jeux. La science confirme. Un texte d'Oriane Polge, paru le 3 novembre 2025 dans Science et Vie. En s'appuyant sur une technologie d'imagerie cérébrale rarement utilisée, une équipe canadienne a montré que certains exercices numériques peuvent renforcer les circuits chimiques de la mémoire. Une avancée qui rebat les cartes de la lutte contre le vieillissement mental. Des jeux numériques conçus pour faire travailler l'esprit révèlent aujourd'hui un potentiel insoupçonné. Loin de l'idée qu'ils ne sont que divertissement pour seniors, certains exercices peuvent restaurer des capacités cérébrales déclinantes. Et ce n'est plus une simple impression subjective. Le changement est désormais visible jusque dans le fonctionnement biochimique du cerveau. Une première scientifique qui rebat les cartes de la prévention du déclin cognitif. Pourquoi le cerveau vieillit mal? Le vieillissement s'accompagne d'un affaiblissement progressif des circuits neurologiques responsables de la mémoire, de l'attention et de la prise de décision. L'un des systèmes les plus sensibles est le réseau cholinergique, fondé sur la transmission d'un messager chimique appelé acétylcholine. Ce système décline naturellement dès l'âge adulte à un rythme estimé à 2,5% par décennie dans certaines zones du cerveau, comme le cortex singulaire antérieur. Ce déclin perturbe le traitement rapide de l'information, la capacité à rester concentré et la précision des souvenirs. Il précède souvent les premiers signes cliniques de démence, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Ce constat a poussé des chercheurs à chercher des méthodes non pharmacologiques capables de freiner ou même d'inverser cette tendance sans passer par la médication. Ce que révèle l'entraînement cognitif sur la santé neuronale. Pour évaluer les effets réels d'un programme d'exercices mentaux, une équipe de l'Université McGill à Montréal a mené un essai clinique d'ampleur inédite. Baptisé INHANCE, ce protocole a recruté 92 adultes en bonne santé de plus de 65 ans. Pendant 10 semaines, la moitié d'entre eux a pratiqué chaque jour des jeux visuels rapides sur l'application Brain HQ, conçue pour stimuler l'attention et la vitesse de traitement. L'autre moitié a joué à des jeux classiques de loisirs, comme le solitaire, sans objectif cognitif spécifique. Ce qui distingue cette étude de toutes les précédentes, c'est son approche biologique. Les chercheurs ont utilisé un traceur radioactif rare, le FEOBV, pour visualiser précisément l'activité du transporteur d'acétylcholine dans le cerveau grâce à la tomographie par émission de positons, PET. Ces images permettent de quantifier l'état réel du système cholinergique au-delà des simples tests de mémoire. Les résultats sont sans appel. Les participants ayant suivi l'entraînement cognitif ont vu leur activité cholinergique s'accroître significativement dans plusieurs régions clés du cerveau, dont l'hippocampe et le cortex singulaire. Selon l'étude publiée dans la revue JAMA Serious Games, cette amélioration chimique équivaut à une restauration de 10 années de déclin naturel dans les zones les plus touchées par le vieillissement. Ce que cela change pour les personnes âgées. Jusqu'ici, l'idée que l'on pouvait rajeunir le cerveau par des exercices restait hypothétique. Les chercheurs parlent désormais de changement de paradigme. L'étude montre qu'un entraînement cognitif intensif et ciblé ne se contente pas d'améliorer la performance à un jeu, mais modifie profondément l'organisation chimique du cerveau dans les réseaux mêmes où apparaissent les premières lésions de la maladie d'Alzheimer. Pour la première fois, une intervention non médicamenteuse démontre sa capacité à améliorer la santé cérébrale de façon mesurable. Le professeur Étienne de Villers-Sidani, neurologue au Neuro de Montréal, souligne que c'est la première fois qu'un traitement, qu'il soit pharmacologique ou non, parvient à restaurer la densité des terminaisons cholinergiques chez l'humain. Un exploit comparable, selon lui, à une inversion du vieillissement biologique dans des zones cérébrales critiques. Selon The Independent, les bénéfices de ce programme pourraient un jour rivaliser avec ceux de certains traitements médicamenteux, souvent coûteux et aux effets secondaires non négligeables. Le programme Brain HQ, lui, s'appuie sur des jeux accessibles en ligne, sans danger ni contrainte excessive. Cette avancée pourrait ainsi ouvrir la voie à une médecine préventive personnalisée, intégrant des outils numériques simples dans les stratégies de santé publique. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Académie américaine de neurologie commencent déjà à inclure l'entraînement cognitif dans les mesures de prévention du déclin cognitif. Ce changement progressif d'approche pourrait alors transformer durablement la manière dont les sociétés envisagent le vieillissement du cerveau. C'était « Rajeunir la mémoire grâce à des jeux, la science confirme ». Un texte d'Oriane Polge, paru le 3 novembre 2025 dans Science et Vie.
Cacher ce sandwich que je ne saurais voir, un texte de Guillaume Lefrançois, paru le 10 septembre 2025 dans la presse. Washington. On nous l'avait annoncé comme le nouveau symbole de la contestation. Comment un sous-marin lancé a fait de Sandwich Guy une icône de la résistance dans le Washington de Trump, titrait le Washington Post il y a 2 semaines. Le symbole est inspiré d'une œuvre de l'artiste de rue Banksy, The Flower Thrower, adaptée aux événements de 2025. En lieu et place des fleurs, l'homme qui y est dépeint largue ce qui ressemble à un sandwich 12 pouces, commandé ou pas en trio avec un biscuit aux brisures de chocolat et une liqueur en fontaine. L'œuvre fait référence à Sean Charles Dunn, un quidam qui a été accusé d'avoir lancé un sandwich sur un policier. L'incident a pris des proportions inattendues pour plein de raisons bonnes et moins bonnes. La vidéo de l'incident est devenue virale. Don est lui-même un ancien employé du département de la justice. Et puis, ils étaient 20 flics à attendre ce criminel sanguinaire devant chez lui pour l'arrêter quelques jours plus tard. Pour la petite histoire, le procureur a finalement été incapable de faire approuver les accusations par un grand jury. Aux États-Unis, pour déposer une accusation d'acte criminel, un procureur doit obtenir cette autorisation, ce qui est généralement une formalité. Bref, l'histoire en général et l'image en particulier constituent un pied de nez à l'administration Trump, qui tente par tous les moyens de laisser son empreinte sur la capitale américaine depuis son retour à la Maison-Blanche. Direction Dupont Circle, quartier bon chic, bon genre de la capitale, où une de ses murales attend les visiteurs à la sortie du métro, lit-on. On sort d'abord par la bouche la plus au sud, coin Connecticut et 19e, dont on sort au bout d'un escalier à rendre jaloux Lucien Lallier lui-même. Une fois en haut, nulle trace de la murale. Deuxième essai au nord, angle Connecticut et Q. Pas de peau. Malgré le chantier entourant la sortie qui se prête à de telles murales, l'image en question est introuvable. Une dame y interpelle les passants. Vous avez l'air de quelqu'un qui aimerait travailler à protéger nos droits civiques, lance-t-elle pour solliciter des dons pour une association de défense des droits. Visiblement, une bonne candidate pour nous aider. Sauf qu'elle semble apprendre l'existence de l'œuvre lorsqu'on lui en parle. « Est-ce récent ?» demande-t-elle. « Ils l'ont assurément enlevée, avance-t-elle, gardant l'anonymat, car elle n'est pas autorisée à parler aux médias pour l'organisme dont elle fait la promotion. Ils sont très rapides par ici à retirer tout ce qui est le moindrement politique, ce qui est très dommage. Mural ou pas, Washington demeure Washington, et les messages politiques sont partout. Une courte marche dans le quartier le prouve. Le socialisme bat le fascisme, lit-on dans la vitre d'une résidence privée. Sur un autre terrain privé, une pancarte énumère quantité de principes, pas nécessairement dans les cordes de l'actuel président. La dite marche nous mène vers Adams Morgan, là où Notre-Dame, rencontrée plus tôt, nous suggère d'aller pour voir le dessin tant recherché. Car là, le dessin a été aperçu sur Columbia Road. « C'est un secteur plus artistique », plaide-t-elle. Sauf que cette fois encore, pas de trace de l'œuvre sur le tronçon que nous empruntons. Cela dit, il ne faut pas y voir nécessairement une œuvre de destruction de la garde nationale déployée dans la capitale. Dans les quartiers périphériques que nous visitons en ce mercredi soir, les agents en question sont introuvables. Idem dans le métro, bien qu'un confrère en ait aperçu à Metro Center, une des principales stations du réseau souterrain. Il vise surtout les personnes en situation d'itinérance, les gens vulnérables. Ils sont très visibles dans les secteurs touristiques parce qu'ils veulent simplement donner l'impression que l'armée est en contrôle, estime notre militante. Elle-même assure ne jamais avoir eu affaire aux soldats malgré son militantisme. La montée de l'autoritarisme vient généralement avec différentes formes de résistance. Par ici, l'affichage public en est une forme. Même jusqu'à la très proprette Arlington, banlieue de la capitale, où on trouve tout de même des images et messages de contestation. C'était « Cacher ce sandwich que je ne saurais voir », un texte de Guillaume Lefrançois paru le 10 septembre 2025 dans la presse.